Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Radio Libertaire, la voix sans du ni maître de la Fédération Anarchiste. C'est le troisième lundi du mois. La société dans tous ses états. Mohamed au micro, Lulu à la technique. Bonjour.
Salut.
Lulu. Et aujourd'hui, on a le plaisir pour cette première émission de l'année. Nous avons le plaisir d'accueillir Sylvain Boulouk. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Alors Sylvain, tu es historien spécialisé dans le, on va dire dans le mouvement politique, on va dire d'extrême gauche sur l'anarchisme. Je vais te laisser te présenter, hein, ça sera le plus simple.
Oui, donc je suis historien spécialiste du communisme, oui, de l'anarchisme et du syndicalisme, puisque je travaille d'abord sur la CGTU, donc la Confédération Générale du Travail Unitaire, qui a un temps regroupé des anarchistes et des communistes, puis plus que des communistes.
On va revenir longuement sur, sur cette histoire. Tu as publié récemment aux éditions Atland un ouvrage qui s'intitule « Le peuple du drapeau noir, une histoire des anarchistes ». On parle beaucoup depuis quelques années dans les médias plus ou moins mainstream du mouvement libertaire. On se rappelle du film de Tancred Ramonet paru il y a quelques années, qui était diffusé sur Arte. En ce moment, il y a une série d'émissions diffusées sur France Inter. Je fais un petit peu de publicité pour une chaîne concurrente, entre guillemets. Il y a régulièrement dans la grande presse, depuis quelques années, un regain d'intérêt pour le mouvement libertaire anarchiste. Alors, sans vouloir porter de jugement sur la qualité éventuelle ou non de ces articles et de ces émissions, en tout cas, on parle un peu plus qu'à l'accoutumée depuis quelques années de ces mouvements. Et on a vu ces dernières années, au cours de mouvements comme la ZAD autour de la contestation de l'implantation de l'aéroport près de Nantes, ou alors les agros qui bifurquent lorsque des étudiants arrivant en fin de cursus de grandes écoles décidaient de partir sur d'autres perspectives plutôt que d'enrichir et d'aggraver la situation liée au capitalisme industriel. On voit une efflorescence de mouvements qui pourraient peu ou prou se rattacher à une tradition libertaire. On est dans une sorte de bien longtemps après 68, dont on a fêté le 60e anniversaire, 50e anniversaire il y a quelques années, il y a 4 ans, 5 ans. On est donc dans une sorte de révivifiance d'un courant anarchiste libertaire, pour le prendre au sens très large. Et on voit malgré cela quand même la persistance d'une certaine faiblesse numérique des organisations anarchistes, quelles qu'elles soient, ici en France ou ailleurs, mais une diffusion très large de certaines idées liées à ce courant politique plus que centenaire, bicentenaire, en France en tout cas. Avec toi, Sylvain, j'aimerais qu'on revienne sur cette longue histoire et éclairer certaines parties de ce mouvement dans sa longue évolution depuis bientôt, donc, comme je le disais, 200 ans. Alors, ton livre, il a le mérite d'abord d'être ramassé, c'est ça ?
Oui, c'est une synthèse.
C'est une synthèse. Et cette synthèse, elle a le double intérêt. D'abord, pour moi qui connaissais une bonne partie de ce que tu dis, mais aussi j'y ai appris aussi des choses que j'ignorais. Elle a pour principal intérêt de faire des rappels historiques et de montrer à la fois les continuités, mais aussi les ruptures dans ce mouvement.
Oui, alors. Donc plusieurs choses. D'abord, ce qui se passe aujourd'hui, c'est effectivement, ça vient traduire la distorsion, je vais dire quasiment historique, du mouvement libertaire. C'est-à-dire qu'on a une prégnance assez forte des idées libertaires et des pratiques libertaires avec un courant libertaire qui, numériquement, a toujours été faible. Ce qui veut dire que, puisque ça fait quand même près de 2 siècles que ça dure, les modes de diffusion de l'anarchisme ne reposent pas sur des formes de militantisme traditionnel, on va dire. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein, mais c'est sur deux. Il y a d'autres canaux de diffusion qui permettent d'expliquer l'histoire de l'anarchisme et la vitalité des idées était libertaire encore aujourd'hui, alors qu'on les donnait, enfin, on les a régulièrement données pour mortes. Et j'aime à citer le livre de Louis Mercier qu'il a écrit juste après 68, l'incroyable. Qui s'appelle L'incroyable anarchisme, parce que justement, c'est une idée qui ne semble pas vouloir s'éteindre. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la résultante aussi de deux siècles d'histoire et deux siècles de pratiques militantes diverses et variées, de pratiques culturelles, d'influences culturelles dans tous les domaines et dans des registres où personne ne s'y attend. C'est pour ça aussi que ça continue à se diffuser dans cet ensemble de pratiques et de modes de militantisme qui explique que l'anarchisme continue à être en fait extrêmement, extrêmement vif comme philosophie politique.
On va remonter un petit peu le fil de l'histoire. Et tout d'abord, pour commencer cet entretien avec toi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu aux origines, entre guillemets, sur les origines de ce mouvement. Et une toute petite question, alors elle peut paraître assez anecdotique, mais d'où ça vient ce drapeau noir? Est-ce que tu as une idée de pourquoi les anarchistes ont-ils utilisé cet emblème?
On sait que la première utilisation du drapeau noir, c'est ce qui fait la couverture du livre également, serait Louise Michel qui, en 1883, lors d'une émeute de la faim dans Paris, brandit un drapeau noir pour inciter les manifestants à aller faire de ce qu'on appellerait de la récupération individuelle, de la reprise individuelle ou de l'autoréduction dans des boulangeries. C'est-à-dire qu'il y a eu, au cours de cette manifestation en mars 1883, plusieurs boulangeries qui ont été pillées pour que les marcheurs de la faim puissent se nourrir. Et donc, c'est une des premières, alors peut-être pas la toute première fois, puisque le drapeau noir était présent chez les Cagneux aussi, mais c'est une des premières fois où on voit réellement quelqu'un s'exprimer avec un drapeau noir, et au fur et à mesure, le rouge va être accaparé plutôt par les socialistes, puis par les communistes, et les anarchistes garderont le noir, ou de temps en temps le noir et rouge. Donc c'est une des premières manifestations, enfin ça semble être la première, mais peut-être sous réserve d'inventaire complet, la première manifestation du drapeau, enfin la première manifestation avec le drapeau noir.
Et sur la reproduction donc qui orne la page la couverture du livre, on voit effectivement Louise Michel qu'on reconnaît au milieu de l'émeute qui s'attaque à la boulangerie, et sur ce drapeau noir on peut lire du pain ou la mort.
Oui, alors ça je sais pas si ça n'a pas été rajouté par l'illustrateur lors de la parution de l'affiche originelle, mais d'après tous les rapports, on sait qu'il y a Louise Michel utilise un drapeau noir. Alors, est-ce que c'est le signe qui va permettre déclenchement de l'émeute, ou est-ce que c'est déjà une revendication affichée? Enfin, toujours est-il qu'à partir de cette date, on voit le drapeau noir de manière très fréquente dans les cortèges anarchistes.
Et cette reproduction, cette image qui est placée donc sur la couverture du livre, elle fait un lien qui va perdurer longtemps entre le mouvement anarchiste et l'émeute.
Oui, parce que c'est un des courants de l'anarchisme, alors, qui ne recouvre pas forcément les tendances traditionnelles syndicalisme libertaire, communisme libertaire ou anarcho ou individualisme libertaire. C'est transcourant, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des libertaires qui pensent que l'émeute peut être le moyen de transformer la société, l'étincelle qui va mettre le feu à la plaine, et c'est quelque chose qu'on retrouve depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui avec les Black Blocs, en passant par mai 68, ou pour l'anecdote qui est toujours amusante à citer, c'est que le 10 mai 1968, il y avait un gala de soutien au Monde Libertaire.
À la Mutualité.
À la Mutualité, dans lequel chantait Léo Ferré, où il chante pour la première fois, ou une des premières fois, les anarchistes. Et vers 10h30, quand le gala s'arrête, il dit, Léo Ferré aurait dit au public, écoutez, je pense que vous avez autre chose à faire, je vous laisse vous égayer dans les rues du Quartier Latin. Et d'après quelques témoignages de militants, pour beaucoup aujourd'hui disparus, ils sont effectivement parmi les derniers à avoir tenu les barricades de la rue de Lussac et du Quartier Latin jusqu'à très tôt dans le petit matin.
Mais il y a une tradition donc, de ce 19e siècle émeutier révolutionnaire, puisqu'on peut remonter, bon, bien sûr, il y a la Révolution française qui va terminer le 18e siècle et ouvrir le 19e siècle, mais ensuite il y a toute une série de révoltes et même de révolutions. Les Canuts à Lyon, les trois glorieuses de juillet 29, les mouvements de 1848, et puis bien sûr la Commune.
Oui, alors là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à ce moment-là, le courant anarchiste n'est pas encore complètement formé. Il commence à y avoir l'agglomération de différentes idées qui vont donner naissance à l'anarchisme en tant que philosophie politique, mais que ce soit les Canuts, c'est d'abord une émeute du travail ou du pain, hein, et puis une émeute d'abord frumentaire, d'abord alimentaire, puis exigeant de meilleures conditions de travail. 1830 à Paris, c'est une émeute anti-monarchiste, qui va être récupéré par Louis-Philippe. Puis 1832, il y a la deuxième émeute lors des funérailles du général Lamarque. Mais là, on est encore dans l'insurrection de type républicaine, même si l'idée républicaine, à ce moment-là, c'est une république sociale de la justice et du travail, comme on disait. Et donc, c'est quelque chose qui dure jusqu'à 48, voire jusqu'à 1860, enfin, et même jusqu'à 1871, avec des nuances. 48, il y a un courant républicain qui est un courant républicain très social, avec l'ouvrier Albert, avec Louis Blanc, alors qu'ils font partie du gouvernement provisoire, ou avec des députés. Il faut rappeler que Proudhon a été député, oui. Ou avec des députés qui s'engagent sur des questions sociales. Alors, le rapport au parlementarisme n'est pas le même en 1848 qu'aujourd'hui. Sur des questions sociales et qui commencent à faire émerger cet agglomérat de méfiance qui va finir par former ce qu'on appelle le corpus idéologique, enfin, ou ce qu'on pourrait appeler le corpus idéologique de l'anarchisme, qu'on va retrouver dans une première manifestation réellement. Alors, il faut être nuancé parce que la Commune de Paris n'est pas que de l'anarchisme, mais qu'on retrouve dans quelques expériences qui sont conduites pendant la Commune de Paris où, alors là c'est aussi un des problèmes, c'est que deux futurs anarchistes vont participer. Sans oublier non plus que la Commune de Paris a une dimension très nationale, voire nationaliste, puisque c'est au départ une protestation contre la défaite française et que certains futurs libertaires comme Élisée Reclus prenaient cette dimension en sérieux. C'est-à-dire qu'il y avait un attachement particulièrement fort aux idées de la Révolution française et ils voyaient dans la Prusse bismarckienne l'État autoritaire par excellence. Donc il y a toujours eu une ambiguïté assez forte chez certains libertaires entre la guerre et la défense, alors je dirais peut-être pas la défense nationale, mais la défense d'une idée de la nation qui existe. Et donc ça, c'est la première chose qu'on retrouvera jusqu'en 1914. Et puis la deuxième chose, c'est l'articulation avec la question sociale. Et c'est vrai qu'avec la Commune, la question sociale devient prépondérante et permet à l'anarchisme de se fixer comme corps de doctrine avec ce qui se passe au sein de l'AIT où il y a la scission entre les socialistes autoritaires le Conseil général de Londres qui est piloté par Karl Marx et ce qui va être la Fédération jurassienne dans lequel on va retrouver Bakounine, Jebs Guillaume et un certain nombre d'autres qui participent réellement à la formation des idées, de l'ensemble des antis qui vont devenir une des bases de l'anarchisme.
On va revenir et développer au cours de notre discussion une bonne partie des points que tu viens d'évoquer. Tu as parlé donc, entre autres noms, de Proudhon, Pierre-Joseph Proudhon, qui est le premier théoricien, si on peut dire, de...
Proudhon est le premier théoricien libertaire, avec un autre qu'on oublie souvent, qui est Joseph de Jacques, qui est exilé à Londres, mais qui est le premier à écrire un journal qui s'appelle Le Libertaire, qui va s'en prendre très violemment à Proudhon à cause de sa misogynie. Pour simplifier quand même, on dit que Proudhon, alors qu'il y a une œuvre pléthorique souvent contradictoire, Proudhon va donner naissance à un corpus doctrinal où on peut puiser quelques idées, enfin où les libertaires vont puiser quelques idées. Et ce que je voulais faire surtout dans le livre, c'était pas faire une exégèse de Proudhon, ce dont je ne serais pas capable.
Il y en a déjà un certain nombre.
Mais c'était plutôt l'idée de montrer en quel est l'héritage proudhonien ou quel héritage proudhonien les libertaires récupèrent. Donc on a la méfiance vis-à-vis de l'État, on a la mise en place du mutualisme et des coopératives, donc l'idée que en se regroupant entre travailleurs, on peut essayer de changer la société autrement. Il y a l'antithéisme ou la défiance vis-à-vis de la religion, il y a le principe de la libre association qu'on va appeler le fédéralisme par la suite. Donc tous ces éléments-là sont la première base doctrinale qui va former l'ensemble, enfin une des parties qui sera complétée par la suite des idées libertaires. Et avec Proudhon aussi, apparaît, après la déception de ce qu'a été l'expérience parlementaire, l'antiparlementarisme libertaire qui repose sur des modalités particulières. C'est pas de l'antiparlementarisme dénonçant la République corrompue, c'est la modalité de la représentation par le parlementarisme qui favorise le centralisme. Donc on n'est pas du tout dans le même schéma que d'autres pensées politiques qui sont à l'extrême droite de l'échiquier politique. Donc il y a cette dimension-là. Même si Proudhon, alors avec en distordant beaucoup la pensée de Proudhon, a été récupéré par un certain nombre de théoriciens d'extrême droite via le fameux cercle.
Le cercle Proudhon auquel participe entre Bernanos, lié à Maurras et à l'Action française au début du XXe siècle.
Mais c'est une récupération très partielle et très parcellaire sur certains points, comme les petites patries. Mais c'est les petites patries, c'est pas l'idée fédéraliste.
Mais, il va ouvrir la voie donc à tout un ensemble, un corpus théorique. On les connaît tous, bien sûr. On va pas refaire à nouveau. C'est tout ça, mais il y a une continuité qui va apparaître à partir de là, avec différents. Chacun va apporter sa contribution avec des choses en commun et puis des choses peut-être un peu plus distinctes. Tu les exposes dans ton livre. Alors à chaque fois, c'est en quelques pages, tu donnes un aperçu sur les grands noms du XIXe siècle qui ont conduit à la formation de la base théorique de l'anarchie. Tu cites Bakounine, Kropotkine, pour les plus connus, bien sûr, Guillaume. Alors, j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu sur James Guillaume, parce que c'est quand même une histoire un peu particulière. C'est 1872, c'est la naissance donc de la Fédération jurassienne.
James Guillaume a fait partie, alors donc c'est un internationaliste, il était dans le courant anti-autoritaire de l'AIT, et puis il a un parcours qui est assez étonnant, parce que donc il va écrire deux volumes qui sont encore accessibles aujourd'hui, les documents et souvenirs sur l'international, dans lequel il rassemble un maximum d'informations. Alors il n'a pas toutes les informations, ça a été complété depuis, mais toujours est-il que Guillaume donc a cette dimension de mémorialiste, et en même temps, et donc c'est lui qui va transmettre le flambeau, ou l'héritage bakouninien, et transmettre la majeure partie des informations ou des témoignages sur Bakounine. Et son itinéraire est en même temps intéressant, parce que Guillaume évolue au fur et à mesure, et on sent qu'il évolue en voyant que l'anarchisme a du mal à se développer, ou l'idée révolutionnaire a du mal à se développer. Donc on va retrouver James Guillaume après, alors pas comme un sous-fifre dans un ministère, mais qui va, par exemple, servir de secrétaire de rédaction au dictionnaire pédagogique de Ferdinand Buisson, dans lequel il va proposer un certain nombre de notices. Sa proximité avec Buisson, qui a été inspecteur général, puis a été ministre aussi.
Il a aidé Paul Robin pour l'ouverture de son école à Saint-Puis.
Et cette proximité entre Guillaume et Buisson permet justement à Paul Robin d'ouvrir son orphelinat à Saint-Puis, et donc de mettre en pratique quelques idées libertaires auxquelles Buisson n'était pas du tout hostile, parce qu'il considérait que justement une des idées forces des idées libertaires était le principe éducationniste, et montrait que par l'éducation il était possible de transformer, d'évoluer, d'améliorer la société. Donc il y a toujours eu dans ce courant, alors j'aime faire un peu de provocation, il y a toujours eu une tendance anarcho-réformiste qui ne dit pas toujours son nom, ou alors D'autres disent que c'est le modèle agréé. Enfin, Gaetano Manfredonia, par exemple, dans son livre Anarchisme et changement social, dit c'est le modèle éducationniste réalisateur. Mais ces réalisations, elles sont toujours appuyées, accolées sur, sur une base qui est, bah, si on n'est pas sûr de pouvoir transformer la société de fond en comble très rapidement, il faut essayer de la transformer à des petites échelles et à des micro-échelles. Et c'est ça qui fait une richesse de l'anarchisme aussi, c'est-à-dire que c'est une somme. À chaque fois, on a une somme d'expériences qui peuvent être contradictoires, où les uns et les autres peuvent se chamailler pour euphémiser. Et c'est ces expériences contradictoires qui permettent à chaque militant de retrouver le corpus doctrinal qui lui plaît le plus, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée linéaire dans l'anarchisme. Quelqu'un peut se dire anarchiste en empruntant plutôt à Bakounine, ou plutôt à Kropotkine, ou plutôt à Proudhon. Il n'y a pas un anarchisme. Et c'est aussi pour ça que j'ai essayé de... C'est une histoire des anarchistes, parce que je voulais absolument montrer cette pluralité des pratiques, cette pluralité des modèles, et le côté, alors, l'expression est un peu facile, mais le côté auberge espagnole de l'anarchisme, où chacun prend et apporte ce qu'il a envie d'apporter.
Oui, en fait, tu distingues qui va apparaître... assez tôt, ben dès les années 1880, c'est à ce moment-là que vraiment se constitue le courant anarchiste en France. Il va apparaître des courants et des mouvements, chacun assez autonome, mais qui empruntent les uns aux autres. C'est jamais vraiment complètement étanche, hein, entre le communisme libertaire, l'anarcho-syndicalisme...
C'est jamais complètement étanche, c'est-à-dire que les militants peuvent passer d'un modèle à l'autre, ou se rendre compte que le modèle qu'ils développaient, par exemple à un moment, la propagande par le fait, alors qu'il ne faut pas réduire à l'épisode des attentats. La propagande par le fait, c'était beaucoup plus large. C'était montrer par l'exemple, donc ça peut être par l'émeute, qu'on peut arriver à une phase révolutionnaire. Mais se rendant compte que le modèle de propagandiste par le fait ne fonctionne pas, un certain nombre vont glisser soit vers le modèle individualiste ou la réalisation par des micro-sociétés, donc des colonies communistes par exemple, ou d'autres vont verser plutôt dans le syndicalisme, en se rendant compte que c'est peut-être un autre moyen de transformer la société par l'éducation aussi, puisqu'il y a une partie éducative très importante, surtout à la fin du 19e siècle, dans le modèle syndical, par l'éducation dans les bourses du travail et par le fait de former des militants fiers de leur labeur.
Ce que tu montres aussi, c'est qu'à cette époque-là, donc à la fin du 19e siècle, on croit vraiment que la révolution, c'est pour demain.
Hein. Kropotkine écrit « D'ici 10 ans, on aura transformé la société ». Donc c'est général à la fin du 19e siècle. Hein. C'est une société qui est très positiviste, donc chacun voit, chaque courant politique voit la possibilité de transformer la société. Bon, elle évoluera, elle ne se transformera pas, mais c'est vrai qu'il y a une dimension...
messianique.
Très messianique, oui, quasiment. Oui. Ou une dimension... Non, l'espoir d'une révolution, ouais. qui anime les militants à cette période-là et qui pense que demain, sera le petit matin du grand soir.
Lulu, c'est à toi. Ouais.
Fille aux cheveux roux dont la robe par ses trous laisse voir la pauvreté et la beauté. Pour moi, poète chétif, ton jeune corps maladif, plein de taches de rousseur, à sa douceur, tu portes plus galamment qu'une reine de roman, ses cothurnes de velours, tes sabots lourds, au lieu d'un haillon trop court, qu'un superbe habit de cour traîne à plis bruyants et longs sur tes talons. En place de bas troués, que pour les yeux déroués, sur ta jambe, un poignard d'or reluise encore. Que
d'Éden mal attaché, dévoile pour nos péchés tes deux beaux seins radieux comme des yeux. Que pour te déshabiller, tes bras se fassent prier et chasse ta coupe mutin, les doigts lutins. Perle de la plus belle eau, sonnet de maître Bello, par tes galants mis au fer, sans cesse offert. Valtaille de rimeurs, te dédiant leur primeur, et contemplant ton soulier, sous l'escalier. Main page et prix du hasard, main seigneur et main ronsard, et pire est pour le déduit, ton frère réduit. Tu compterais dans tes lits plus de baisers que de lys, et rangerais sous tes lois plus d'un valois. Cependant tu vagues en quelques vieux débris gisants, au seuil de quelques véfours de carrefour. Tu vas lorgnant en dessous des bijoux de 29 sous, dont je ne puis, oh pardon, te faire don. Va donc sans autre ornement, parfum, perle, diamant, que ta maigre nudité. Oh ma beauté.
C'était le groupe La Tordue qui interprétait à une mendiante rousse un poème de Charles Baudelaire. Toujours sur Radio Libertaire, la société dans tous ses états. Radio Libertaire, la voix sans limite de la Fédération anarchiste. Aujourd'hui, nous accueillons Sylvain Boulouk pour son livre Le peuple du drapeau noir, une histoire des anarchistes, qui est paru aux éditions Atland. Dans une première partie de l'émission, nous avons fait un petit rappel sur les origines et le début des mouvements anarchistes en France. Il y a quand même quelques moments clés hein, dans cette histoire des débuts de l'anarchie, du mouvement anarchiste en France au XIXe siècle, avec des moments assez forts qui ont permis ou qui ont montré en fait à la fois les forces et les fragilités du mouvement. Tu parlais juste avant la coupure des lois, de la propagande par le fait qu'on associe trop souvent aux attentats de cette période-là. On se rappelle donc de Ravachol et de Clément Duval, enfin tous ces mouvements les attentats liés à cette époque et des lois scélérates. Donc à ce moment-là, il y a quelque chose de particulier qui se met en place.
D'abord, donc il y a une série d'attentats quand même assez impressionnante, puisque si on fait le compte, on a quand même un juge et plusieurs policiers qui sont abattus, on a un président de la République, on a une bombe à la Chambre des députés, on a une bombe dans un grand restaurant parisien qui blesse Félix Fénéon, qui était un poète libertaire, mais donc il y a une multitude d'anarchistes qui aboutit à d'attentats revendiqués par des anarchistes, qui aboutit les pouvoirs publics à faire une loi spécifique contre les anarchistes, qui sera quasiment jamais appliqué en fait, parce qu'à chaque fois qu'il y a un regroupement, enfin une tentative de jugement des principaux responsables libertaires, ils ont beau jeu de prouver qu'ils ne sont pas responsables de ce qui a été commis et qu'il n'y a pas de lien forcément de cause à effet. Donc très rapidement, la loi sera de temps en temps appliquée, mais plus pour mener anarchistes qu'autre chose. Mais toujours est-il qu'il y a des lois scélérates, qui sont appelées comme ça notamment par un jeune avocat qui écrit dans la Revue Blanche qui s'appelle Léon Blum, par le fondateur de la Ligue des droits de l'homme qui est Francis de Pressensé, et par un troisième troisième personne dont j'oublie. J'ai dont c'est le trou de mémoire. Et donc c'est donc il y aura une condamnation assez violente, même beaucoup plus de personnes de ces lois scélérates. Et le paradoxe, c'est que très peu de temps après, alors que les libertaires commencent à abandonner la propagande par le fait pour majoritairement rentrer dans le mouvement syndical balbutiant, enfin naissant, il y a un deuxième événement qui se produit, c'est l'affaire Dreyfus. Et là, dans cette affaire Dreyfus, les libertaires vont être à la pointe du combat dreyfusard. Alors ils sont emmenés, enfin, ou ils sont convaincus plutôt qu'emmenés par un jeune journaliste juif libertaire qui s'appelle Bernard Lazare. Bernard Lazare c'est la famille de Dreyfus, Mathieu Dreyfus et Lucie Dreyfus qui sont allés le chercher en lui disant ben voilà, il y a un problème sur la culpabilité du capitaine. Alors que la majeure partie des libertaires se moquaient du tiers comme du quart de Dreyfus en disant c'est un galonné, c'est pas notre problème. Lazare est sensible à une question qui est l'antisémitisme dans l'affaire Dreyfus. Il va écrire un premier mémorandum qui ne sera pas publié sur la dimension antisémite de l'affaire Dreyfus, mais Mathieu Dreyfus et Lucie Dreyfus disent mais si tu fais ça, Alfred Dreyfus mourra à l'île du diable et on n'aura pas eu gain de cause. Donc Lazare reprend le dossier, voit tous les éléments qui sont discordants par rapport à la vérité officielle qui est prononcée par les militaires qui agissent avec un antisémitisme virulent, mais laisse de côté la dimension antisémite pour ne s'attaquer qu'à l'erreur judiciaire. Et il réussit à convaincre notamment Sébastien Faure, qui est un des principaux militants libertaires à ce moment-là, qu'il faut absolument s'engager dans l'affaire Dreyfus et soutenir cette cause, parce que ce n'est pas un principe, ce n'est pas des militaires, mais c'est un principe de justice. Et ce principe de justice fait qu'il faut être attentif aux libertés, à la liberté publique. C'est quelque chose que je développais tout à l'heure. C'est par rapport à l'idée réforme ou révolution, qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Peut-être qu'il faut quand même préserver quelques libertés et qu'il y a dans la France des années 1880, de la fin des années 1890, malgré les lois scélérates, un certain nombre de libertés à défendre. Et donc les libertaires, au fur et à mesure, s'engagent massivement. Alors il y a quelques réticents qui regardent ça d'un œil très dubitatif en disant mais ça nous servira pas. Et regardez tous les libertaires qui sont injustement condamnés au bagne, est-ce qu'ils vont être libérés? Alors il y en aura quand même 5 qui vont être libérés suite à l'affaire Dreyfus, mais très très majoritairement, ils s'engagent dans le combat pour le capitaine. Et ça va aller plus loin même, parce que en 1898, Lazare et surtout Sébastien Faure fondent un journal qui s'appelle le Journal du Peuple, qui alors faut le dire discrètement, mais qui est financé par le grand rabbin Zadok Kahan, qui dit c'est des alliés, donc je donne de l'argent. Et donc à ce moment-là, il se trouve que le président Félix Faure meurt dans les bras de sa maîtresse, semble-t-il, enfin d'une crise cardiaque, et il est remplacé. Enfin, il y a une élection et Valdec Rousseau, c'est le secrétaire du PC. Excusez-moi, Valdec Rousseau. C'est les obsessions qui reviennent. Valdec Rousseau va être désigné comme président de la République. Et lors de c'est pas Valdec Rousseau, je vous dis des bêtises, c'est Loubet.
Émile Loubet,
pardon, va être désigné comme le président de la République, et il fait une première réunion publique. Et qui assure le service d'ordre? Alors, contre la menace césarienne, contre la réaction, parce que les lignes antisémites défilaient dans Paris.
Il y a des menaces de coup d'État.
Il y a des menaces factieuses qui sont très importantes. Et contre ces menaces factieuses, les libertaires vont défendre, alors c'est ça qui est paradoxal, vont faire le service d'ordre de Loubet, puis après vont chasser, en fait, les factieux jusqu'au fameux épisode du Fort Chabrol où les troupes antisémites se retrouvent regroupées isolés dans une espèce de bunker, enfin dans une maison bunkerisée. Les libertaires n'arriveront jamais à atteindre ce Fort Chabrol parce que les forces de police avaient encerclé le... Mais il y a cette volonté d'en découdre et de défendre des libertés publiques qui sont menacées face à une... Alors là, on n'avait pas encore une tentative de coup d'État fasciste, mais face à ce qu'on appelait une menace césarienne. Mais se pose cette question qui est vraiment importante de quelle est la part de uniquement de défense des libertés, quelle est la part de retrouver, redonner vie à l'anarchisme d'une autre manière. Donc il y a toujours cet équivoque qui existe dans l'engagement libertaire à la fin du 19, enfin depuis les origines, mais plus encore à la fin du 19e siècle, ce qu'on retrouve avec le syndicalisme d'une autre manière.
C'est un épisode tout à fait méconnu, enfin très peu diffusé. Justement de ces anarchistes qui à ce moment-là se portent en défense, oui. Pour dire vite, de la République.
Oui, alors c'est vrai qu'ils s'en sont voulus après, en se disant la République n'a pas vraiment été...
Oui, ils n'ont pas été payés de retour.
Non, ils n'ont pas été payés en retour. Enfin, ils s'y attendaient aussi. Ouais.
Ils n'étaient pas si naïfs que ça.
Et après, il y a quand même eu quelques évolutions, mais ils n'étaient pas si naïfs que ça non plus, ils s'attendaient. Il y a aussi une question morale de qu'est-ce qu'on préfère comme type de régime. Ça se pose pendant l'affaire Dreyfus.
Et ça va se poser ensuite.
Et ça continue à se poser ensuite. Alors, le syndicalisme le pose d'une autre manière, parce que ce sont des progrès sociaux et des conquêtes sociales. Mais se pose la question du bien-être immédiat par rapport des catégories des ouvriers, par rapport à une hypothétique transformation de la société dans les années à venir. Et le syndicalisme, c'est cette construction pierre à pierre d'une autre société, par l'exemple du fait que les ouvriers puissent gérer leurs entreprises ou par le fait qu'une force collective permet de mettre en échec le patronat, par exemple.
On a parlé donc des journalistes et des écrivains, on a cité les noms de Lazare et de Fénéon, mais sociologiquement à cette époque, c'est qui les anarchistes?
Alors, il faut rompre avec plusieurs images d'Épinal. Majoritairement, très majoritairement, les anarchistes à ce moment-là sont ouvriers, artisans, ils exercent des métiers plutôt proches, dans le peuple ou ce qu'aujourd'hui on appelle les catégories populaires. Néanmoins, à ce moment-là, effectivement, il y a un certain nombre d'intellectuels qui sont proches des idées libertaires. On a parlé de Lazare. Zola, sur sa fin, fait de même une sympathie de plus en plus affichée pour l'idée libertaire. Donc un nombre d'écrivains et d'intellectuels qui sont relativement nombreux qui soutiennent la cause libertaire. Alors souvent, au départ, on en avait encore un peu plus au moment des attentats parce qu'il y avait la dimension provocatrice qui plaisait bien à certains écrivains symbolistes. Après, il y a quand même une réalité qui est qu'il y a plusieurs écrivains, Laurent Taillade également, de la fin de la Belle Époque, qui se sentent proches des idées libertaires, même le jeune Picasso, c'est un peintre, mais alors, il y a aussi le côté bohème qui joue dans l'histoire. Mais tous ces éléments-là font que l'idée libertaire se diffuse dans les milieux culturels, apparaît aussi, ce qu'a très bien montré Gaetano Manfredonia, dans la chanson et dans le milieu des chansonniers. Donc il y a cette espèce de bohème qui joue, mais qui alimente et qui renouvelle en fait un corpus, alors pas forcément un corpus doctrinal, mais un corpus culturel.
Voilà.
Donc très majoritairement, on a des ouvriers, quelques intellectuels, et puis, alors ce qui est toujours mis en valeur, c'est la figure du trimardeur ou de celui qui ne veut pas aller travailler. Il existe, mais il est tout à fait minoritaire dans le courant libertaire. Et puis, ces militants exaltent une forme de marginalité ou de vie en dehors. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ils sont pas une quantité négligeable mais ils ne représentent pas l'épine dorsale du mouvement libertaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder le mouvement libertaire à travers uniquement les en dehors, les individualistes, mais elle le regardait beaucoup plus largement en voyant que c'est majoritairement des ouvriers qui forment ce corps social, ce groupe politique.
Et c'est à ce moment-là que va apparaître et que va prendre corps le syndicalisme. Alors ça, c'est un truc très particulier oui. sur lequel on pourrait s'attarder un petit
Alors,
peu.
Alors, le syndicalisme naît de deux regroupements. Donc, naît d'abord d'une idée de l'idée qui a été développée d'abord par, j'ai oublié son prénom, je crois que c'est Joseph Tortelier qui est l'idée de grève générale, qui est reprise, transformée un peu par celui qu'on appelle le fondateur des Bourses du Travail, qui est Fernand Peloutier, donc qui dit que c'est par la Bourse du Travail qu'on va amener une gestion à venir de la société. Et en 1896, Peloutier écrit une lettre ouverte aux anarchistes dans laquelle il les enjoint de rejoindre les Bourses du Travail et le mouvement syndical qui est en train de se constituer, puisque la CGT est née l'année précédente, d'ailleurs, en 1895, à partir de différents métiers qui viennent au premier congrès, enfin de différents représentants de corporations qui viennent au premier congrès. Et c'est cette première génération-là qui lance le mouvement syndical, qui lance les bases du mouvement syndical, qui va atteindre pour le syndicalisme libertaire ou le syndicalisme révolutionnaire, comme on le qualifiait au début du XXe siècle, son apogée avec la Charte d'Amiens en 1906. Mais il ne faut pas non plus oublier que toute une partie des libertaires se montreront particulièrement réticents. Alors, de deux côtés, les anarchistes individualistes qui regardent ça en disant c'est que du réformisme, et de l'autre côté, un certain nombre d'autres, les libertaires insurrectionnels, comme Malatesta, qui regarde, alors il est italien, mais il a des antennes en France, et qui regarde cela d'un air tout aussi suspicieux en disant c'est un obstacle à la révolution. Donc il y a un congrès international en 1907 à Amsterdam où on voit émerger plusieurs interprétations du syndicalisme avec un débat qui est resté fameux entre Monnat et Malatesta, qui est un peu erroné parce que il y a une troisième interprétation qui se fait jour mais qu'on oublie souvent, qui est celle de Christian Cornelissen qui explique on peut essayer de développer une thématique syndicaliste libertaire en étant libertaire dans le syndicalisme. Et donc ce débat fameux oppose donc le modèle insurrectionnel de type malatestien et le modèle syndicaliste révolutionnaire où c'est le syndicat qui va gérer la société qui est développé par Pierre Monnat avant qu'il n'adhère au Parti communiste après la Première Guerre mondiale. Donc il y a cette tension qui existe, la critique du syndicalisme qui émane de certains noyaux de l'anarchisme, qui montre encore une fois qu'il y a une pluralité interprétative extrêmement forte. Massivement, ces ouvriers libertaires rentrent dans le mouvement syndical et vont en former, alors, peut-être pas l'armature complète, mais on va en former un corps important, puisque le mouvement syndical, à ce moment-là, est unifié, et toutes les tendances politiques du socialisme participent au mouvement syndical, même s'il y a des débats très vifs sur est-ce que la SFIO doit diriger le mouvement syndical, comme c'est le cas dans le modèle allemand, ou est-ce que le syndicalisme doit se suffire à lui-même et se défie des partis politiques, qui est plutôt le modèle français.
Et en plus, ce syndicalisme révolutionnaire, il le dit dans la Charte d'Amiens, c'est-à-dire qu'il vise non seulement à l'amélioration au présent des conditions des travailleurs, mais aussi le but, c'est l'abolition du salariat et l'abolition du patronat et in fine l'abolition de l'État.
Oui, il y a ces trois buts anti-étatistes et anti-patronales qui sont mentionnés, et puis il y a même une quatrième, il y a une motion aussi qui est une motion anti-militariste, qui est intéressante parce que c'est quand même là-dessus que porte aussi que va porter l'espoir en 1914 de faire la grève générale et de voir l'effondrement du mouvement.
Il faut quand même citer cet appel à l'insurrection qui a échoué du 1er mai 1906.
Oui, alors c'est vrai que la CGT, alors dirigée est un bien grand mot, mais la CGT avait comme principaux secrétaires plusieurs militants qui venaient du mouvement, qui étaient libertaires et qui se revendiquaient comme tels. Et le 1er mai 1906, donc la CGT appelle à la grève générale pour imposer la journée de 8 heures, donc les fameux 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. À ce moment-là, ce n'est pas le Muguet, mais c'est l'Églantine rouge à la Boutonnière. Et ce qui se passe, c'est que Clémenceau, donc le ministre de l'Intérieur, a décidé de faire, entre guillemets, la peau de la CGT et va faire arrêter préventivement la majeure partie des responsables de la CGT, ce qui fait que les manifestations... Alors, il y aura quelques manifestations, quelques émeutes, mais la manifestation tournera relativement court et il n'y aura pas de manifestation massive pour imposer cette journée de 8 heures contrairement aux espoirs qui étaient portés par la CGT, ce qui est une des origines du déclin du courant libertaire aussi dans la CGT, puisque au fur et à mesure des années, le nombre de militants se tasse et la CGT prend des options qui sont un peu différentes. En 1909, il y a toute une histoire autour d'un secrétaire qui était plutôt d'orientation, entre guillemets, parce que pour le syndicalisme, ça ne veut pas dire grand-chose, mais entre guillemets réformiste. Il est finalement déchu de ses fonctions, remplacé par Léon Jouot, qui va avoir un avenir un peu particulier, oui, sur lequel on reviendra peut-être. Mais Léon Jouot, à ce moment-là, c'est le secrétaire des ardoisiers de Trélazé, il incarne cette conception libertaire du syndicalisme de manière assez consensuelle, finalement, et c'est autour de sa personne que se fait le consensus, même si on voit Jouot en train de dire il va falloir développer une autre forme de mouvement syndical, parce qu'on sent que le modèle syndicaliste révolutionnaire en tant que tel est arrivé à... Lui sentait, en tous les cas, que le modèle syndicaliste était arrivé à un terme et qu'il fallait changer de stratégie ou redéfinir la tactique et la stratégie, peut-être.
Et tout ça dans un climat quand même très très dur, hein. Tu rappelles les exemples des répressions des grèves à Draveil et Villeneuve-Saint-Georges.
Ah oui, c'est très très dur. Il y a des morts très régulières. Ouais. De toute manière, il faut imaginer que
c'est une vraie guerre de classe.
Oui, mais jusqu'au milieu du XXe siècle, il était rare que les manifestations... Enfin, les manifestations ne se terminaient pas toutes par des morts, mais il était fréquent qu'il y ait des morts pendant les manifestations. Et on pourrait même dire des deux côtés, ouais. Parfois, parce que
les ouvriers
n'étaient pas détendre non plus. Il y a des scènes fameuses où on les voit en train de couper les jarrets, oui, des chevaux, oui, balancer des billes sous les chevaux qui chargent, parce que la police était à cheval, balancer des billes sous les chevaux qui chargent et rosser le brave Pandore, comme aurait dit Georges Brassens. Oui. Donc on a cette dimension,
un climat très dur, oui.
Cette dimension très dure qui va perdurer, hein, qui s'arrête pas, alors qui diminue au fur et à mesure, mais qui perdure pendant. Mais la société était extrêmement dure. Hein, également, mais qui perdure pendant une grande partie de l'entre-deux-guerres. Et donc, ces affrontements, à Dreveil, Villeneuve-Saint-Georges, donc c'est une grève des terrassiers qui paralysent le chantier. C'est le chantier du métro de Paris, hein, à ce moment-là. Et donc, Clémenceau n'hésite pas à utiliser des mouchards pour faire de la provocation, pour chercher l'affrontement avec les grévistes. Et puis, possède un homme dans la CGT, un militant qui a été arrêté, qui a été retourné, qui donne des informations, qui est membre du comité confédéral de la CGT. Et donc, Clémenceau essaye de jouer sur ces éléments-là pour attiser le conflit et faire tomber la CGT dans la provocation. Alors, il ne faut pas non plus exagérer, c'est que ce que disaient les syndicalistes qui se sont vexés en disant « Attendez, on ne va pas nous la faire, mais on était quand même là pour casser la gueule aux flics et pour chercher l'affrontement. » Donc il y a aussi, il ne faut pas non plus tordre le bâton dans l'autre sens, ce n'est pas que de la provocation, c'est les militants étaient toujours porté par cet espoir de demain la révolution est encore possible, demain l'insurrection est encore possible, et donc à partir de ce moment-là ils sont prêts à aller en découdre avec les forces de l'ordre, et ils vont en découdre régulièrement, oui, avec les forces de l'ordre, en espérant enclencher un mouvement de masse qui sera le début de la révolution, hein. En 1907, il y a Émile Pouget et Émile Patteau qui publient un roman d'anticipation sociale, comme on disait, qui s'appelle Comment nous ferons la révolution. Et c'est un programme. Alors, c'est à la fois un roman utopique, dans le sens où on rêve de faire ça, mais c'est aussi un programme social et un programme d'action. Donc, il y a ces dimensions-là qui vont se heurter de plein fouet avec la Première Guerre mondiale.
Une pause musicale, là.
Salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien. Salut... Salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi punk iranien, salut à toi rebelle afghan, salut à toi le dissident, salut à toi le chilien, salut à toi le petit malien, salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi l'éthiopien, salut à toi le tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi chaud et allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le libanais, salut à toi le pakistanais, salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain, salut à toi le guyanais, salut à toi le togolais, salut à toi le guinéen, salut à toi le guadeloupéen, salut à toi le congolais, salut à toi le sénégalais, salut à toi l'afro-cubain, salut à toi le portoricain, salut à toi la haute volta, salut à toi le nigeria, salut à toi le gaboni, salut à toi le vieux ch'ti, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Bertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le sandiniste, salut à toi le légendiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut PK du contingent, salut à toi le Chotokan, salut à toi peuple Kanak, salut à toi Tchécoslovaque, salut à tous les petits dragons, salut à toi qui est que bon, salut à toi jeune malgache, salut à toi le Pokobac, salut à toi qui est au violon, salut à toi les Morocons, salut à toi le Yougoslav, salut à toi le Voyouslav, salut à toi le Salvador, salut à toi le Molodoy, salut à toi le Chinois, salut à toi le Zaïrois, salut à toi l'Espagnol, salut à toi le Ravachol, salut à toi le Hongrois, salut à toi l'Iroquois, salut aussi à tous les Goths, des îles maudites jusqu'à l'Écosse, salut à Koutou les Azous, salut à la jeune garde rouge, salut à toi le peuple corse, salut aux filles du Crétien, salut à toi la Vache-Kyrie, salut à Lorraine et à salut à toi peuple nomade, salut à tous les Kamawas, salut à toutes les Vertigones, salut aussi à Yuri Briner, salut à toi l'handicapé, salut jeunesse du monde entier.
C'était Berrurier Noir, salut à toi, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la société dans tous ses états, sur 89.4, la voix sans limite de la Fédération Anarchiste. Aujourd'hui, nous accueillons Sylvain Boulouk pour son livre « Le peuple du drapeau noir, une histoire des anarchistes ». On arrive à la veille, même au déclenchement de la guerre de 14, donc un paysage politique assez tendu, donc une organisation syndicaliste révolutionnaire qui a quand même connu son heure de gloire juste au tournant du XXe siècle. Et là, malgré tous les appels précédents à la grève générale, les appels à la paix et contre la guerre, il va se passer quand même quelque chose d'assez important et d'assez grave pour le mouvement ouvrier, en tout cas, c'est que les militants, une bonne partie d'entre eux, en tout cas, vont rejoindre leur régiment.
L'immense majorité, voire la quasi-totalité des militants finissent en 1914. L'espoir de la grève générale s'effondre du jour au lendemain avec la mobilisation nationale.
Et l'assassinat de Jaurès.
L'assassinat de Jaurès, puis la mobilisation nationale. Et l'espoir de toute une partie des militants qui étaient de mettre la crosse en l'air et de déclencher l'insurrection au moment de la guerre se retrouve enfin, échoue, et la majeure partie des militants rejoint le front. Et même ce qui se passe, c'est qu'on a un témoignage assez exceptionnel qui est celui de Gaston Leval, qui lui va déserter, qui est de dire, qui témoigne dans les années 30 de son désespoir encore, de voir qu'aucun militant est prêt, ou sont tellement peu nombreux qu'ils n'arrivent à avoir aucune action réelle sur la société, et que en se promenant sur les boulevards, ils voient plutôt des manifestations patriotiques. Alors, pas des militants, mais ils voient des manifestations patriotiques, et les militants en tant que tels vont rejoindre dans leur immense majorité les drapeaux, enfin, ils vont répondre à l'appel. Et
c'est l'union sacrée, oui.
Alors, c'est pas ils peuvent y aller en traînant des galoches, hein. C'est pas forcément l'union sacrée. Il peut y avoir une réticence à aller à la guerre. Mais ils y vont quand même. Ils sont très très peu nombreux à déserter. Si on prend l'exemple de la Fédération du bâtiment, je crois qu'il y a 200 militants qui ne vont pas aller au front. C'est infinitésimal sur les 8000 qu'il y avait. Et pour des raisons variées. Hein. En plus, c'est pas par refus d'aller à l'armée. Forcément, ça peut être des limites d'âge, ça peut être tout un tas de choses. Il y a extrêmement peu en fait, de militants qui ont refusé d'aller au combat. Bon, après, ils risquaient pour leur vie. Hein. Au combat aussi, ils risquaient pour leur vie. Mais là, c'était le peloton. Alors, bon, ça dépendait des conditions, mais ça pouvait être le peloton d'exécution immédiatement. Ceci explique aussi peut-être cela. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu une adhésion complète à l'Union sacrée de la part d'un certain nombre de militants. Par contre, il y a un certain nombre de militants qui ont adhéré à l'idée de défense nationale, à l'Union sacrée, et qui ont voulu défendre la République une nouvelle fois contre l'autoritarisme prussien. C'est ce qu'on va appeler le manifeste des 16, qui en fait n'était que 15, dans lequel il y a 15 militants historiques, dont Kropotkine, dont Charles Malato, qui signe un manifeste en disant il faut défendre, les valeurs de la République, c'est pas les valeurs de la République comme on l'entend aujourd'hui, mais défendre les libertés publiques contre cette menace, ils disent pas césarienne, mais contre cette menace autoritaire que représente l'Empire allemand. Il y a une réponse. Enfin, il y a plusieurs réponses. Il y a une réponse qui s'appelle anarchiste de gouvernement. Il y a une deuxième réponse d'un groupe d'anarchistes à Londres qui dénonce cette trahison des idées libertaires en disant qu'ils ne font qu'une seule chose, c'est le jeu de l'État. Mais il y a eu un conflit assez fort entre les uns et les autres, ce qui fait que les signataires du manifeste des 16, en fait, qui n'étaient que 15 puisque le 16e est un nom de ville, les signataires seront écartés après la Première Guerre mondiale et vivront, alors ne seront pas complètement écartés, c'est-à-dire qu'ils continueront à avoir des contacts importants avec un certain nombre de personnes.
Kropotkine gardera quand même
et une certaine influence. Kropotkine garde une aura au-delà de ce qui a pu se passer en 1914, mais seront marginalisés, on va dire, dans le mouvement, de toute manière, mouvement qui est en pleine transformation après la Première Guerre mondiale et en plein renouvellement, parce qu'il y a de nombreux jeunes militants qui apparaissent avec l'opposition à la guerre, qui est importante dans les milieux ouvriers, hein, dans tout un tas de milieux où les ouvriers étant moins mobilisés que les autres, parce que beaucoup étaient mobilisés à l'arrière dans les métallurgies pour
l'effort de guerre.
Pour l'effort de guerre, donc ces militants qui sont à l'arrière peuvent aussi avoir une action antimilitariste. Et donc, pour les libertaires, ça va être le comité de défense sociale qui va essayer de rassembler l'ensemble des courants.
Il y a un appel à la grève d'ailleurs qui échoue.
Il y en a même plusieurs, ça appelle à la grève. Alors c'est plutôt pour des revendications. C'est plutôt pour des revendications sociales, mais souvent, revendications sociales et revendications antimilitaristes se lient, en tous les cas à partir de 1917, elles se lient encore plus fortement parce que apparaît, alors pas en février 1917, mais en octobre 1917, commence à apparaître cette grande lueur à l'Est qui est incarnée par la prise du pouvoir par les bolcheviks, avec une ambiguïté. Les bolcheviks prennent le pouvoir sur des mots d'ordre révolutionnaires, la terre aux paysans, les usines aux ouvriers, paix immédiate. Donc il y a cette dimension-là qui fait que les libertaires vont être désarçonnés parce que les bolcheviks réussissent finalement à faire la révolution et ont réussi à faire la révolution. Mais eux, ils n'ont pas fait la révolution pour détruire le pouvoir. Eux ont pris le pouvoir. Mais cette idée de... Il y en a qui ont changé les choses en prenant le pouvoir fait que certains libertaires, comme Pierre Monat, comme Jules Tolade, alors qui lui finira dans la collaboration, mais à ce moment-là, il était comme Richetta, comme Erclay, donc un certain nombre qui vient, ou des syndicalistes révolutionnaires, qui au départ étaient plutôt proches des idées libertaires, qui vont, parce qu'il y a un modèle bolchevique qui a réussi, vont pendant plusieurs années, alors parfois toute leur vie pour certains, mais en tout cas pendant plusieurs années, vont être des membres actifs du Parti communiste. Ce que les libertaires ne voient pas, c'est que le courant libertaire à ce moment-là commence à se vider parce que il n'y a pas d'efficacité, donc il y a le problème de l'organisation qui se pose et ils voient pas le courant, alors pas incompressible, mais la force du courant communiste dans le monde ouvrier qui est en train de se développer sur les ouvriers révolutionnaires le modèle soviétique finit par exercer une forme de fascination qui fait que qui n'est pas avec nous est forcément contre nous, donc les libertaires sont rejetés dans le camp contre-révolutionnaire, et les libertaires de leur côté rejettent les communistes dans le camp contre-révolutionnaire, puisque une des premières appellations du fascisme rouge, qui est donc la contraction quand même de le régime mussolinien et le bolchevisme, fait que il y a une détestation qui commence à poindre du communisme sous sa forme soviétique et qui va traduire un antagonisme très très fort de 1921 mais même avant jusqu'en 1991, puisque il y a plusieurs anti-libertaires et un des anti-libertaires assez forts, c'est l'anti-communisme puisque le modèle soviétique se disait communiste. Après, on peut jouer sur le jeu de mots, l'anticommunisme libertaire, mais il y a cette réalité, et puis cette réalité aussi marquée du sang d'un certain nombre de militants. À Kronstadt, en Russie soviétique, à Kronstadt, ou pour Makhno, mais même en France, puisqu'en 1924, le service d'ordre du Parti communiste le PC organisait un meeting, les libertaires avaient décidé de faire la bronca devant une salle hostile, mais le PC délibérément fait tirer sur les agitateurs, et il y en a deux qui tombent tués sous les balles bolcheviques. Et donc là se pose de nouveau une nouvelle question, en référence à Lénine, mais que faire dans des conditions pareilles.
Très tôt, les milieux libertaires, anarchistes en France savent ce qui se passe, parce qu'il y a Kropotkin qui va très vite correspondre, qui va...
Les informations parviennent au compte-gouttes, parviennent au compte-gouttes pour tout le monde. À partir de 1918, plus d'informations commencent à arriver. Il faut vraiment attendre 1920. Et là, les libertaires sont hésitants parce que ils savent pas vraiment sur quel pied danser, en disant est-ce que c'est temporaire ou pas. Mais il faut attendre 1920 pour avoir des informations. Et la critique commence en 1920 et elle sera encore plus violente.
Il y a un personnage important, c'est Voline quand même.
C'est Voline. Voline, lui, est encore en Russie en 1920-1921, il arrive en Allemagne en 1922 et il viendra s'installer en France un peu plus tard, et là effectivement il apportera un témoignage historique décisif peut-être, qui est la Révolution inconnue, dans lequel il fait une histoire du mouvement anarchiste en Russie, et il aura une action dans le mouvement français, il se fondera dans le mouvement français, mais il arrive plus tardivement en France. Comme j'ai axé plutôt sur la construction du mouvement en France, il arrive plus tardivement, tout en participant très activement au mouvement libertaire.
Il y a aussi une conséquence de cette révolution, de la prise du pouvoir par les bolcheviks, c'est sur le mouvement syndical en France.
Oui, alors c'est l'autre chose, c'est que donc 1921, il y a une scission dans la CGT. Deux CGT apparaissent, la CGT maintenue avec Léon Jouot comme secrétaire, et une nouvelle CGT qu'on appelle la CGTU, donc le U, comme ils viennent de scissionner, c'est pour unitaire, c'est logique. Oui. Et donc, dans cette CGTU, se retrouvent les, on va dire, les révolutionnaires, pour faire vite, et donc se retrouvent principalement des libertaires et les communistes, plus quelques syndicalistes non encartés dans des partis ou des organisations politiques, qui sont de tempérament révolutionnaire. Et la bataille est très inégale, parce qu'en fait, ce dont ne se sont pas rendus compte les libertaires, c'est que les communistes étaient majoritaires. Alors, ils ont cru que les communistes avaient tout fait pour prendre le contrôle de la centrale, mais en fait, la réalité est bien plus prosaïque et bien plus dure pour les libertaires, c'est qu'ils étaient devenus minoritaires, ils ne s'en sont pas rendus compte, ils n'ont pas voulu s'en rendre compte, et du coup, ça a été un premier choc lors du congrès de Saint-Étienne de Fondation en 1922, et puis un deuxième choc quand il y a un congrès extraordinaire l'année suivante, parce que le courant favorable au communisme ou à Moscou est très largement majoritaire, c'est-à-dire qu'il est majoritaire aux 2/3, puis au 4/5. Et là, on voit bien que les libertaires se sont aussi bercés d'illusions en pensant qu'ils avaient réussi à maintenir la CGT, reconstruire la CGT telle qu'elle pouvait exister en 1906, sans avoir regardé les raisons de l'échec de 1906, puis des échecs successifs. Et puis, ils n'avaient pas vu non plus le renouvellement générationnel, le fait qu'un certain nombre de militants qui étaient proches d'eux sont restés avec Jouot. Et du coup, il y a cette distorsion qui se fait, et la mère réalité fait qu'ils pensaient que faire renaître la CGT de l'avant-guerre, et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque la CGT est devenue la CGTU est devenue une courroie de transmission du PCF.
Et un certain nombre de militants anarchistes, libertaires, vont passer aussi du côté vers le Parti communiste. Il y a d'abord une fédération des soviets, puis...
Alors, il y a effectivement le premier parti communiste qui s'appelle le Parti communiste de Périca, Périca était un militant du bâtiment, qui a lui après adhérera au PC, et puis un nombre de figures assez importantes, un jeune métallurgiste anarchiste dans la région de Saint-Étienne qui s'appelait Benoît Frachon, oui, qui deviendra le secrétaire quasiment inamovible de la CGT, Pierre Menat, qui a été une des figures importantes du syndicalisme libertaire et fondateur de la vie ouvrière. Il était plutôt, il se définissait comme syndicaliste révolutionnaire, mais il écrivait dans le Libertaire avant la guerre. Donc il y a Pierre Menat qui adhère au PC, et il y a une quantité de militants, je ne vais pas faire la liste complète, mais il y a une quantité de militants importants qui, au nom de l'efficacité révolutionnaire, préfèrent le Parti communiste. Alors, quelques-uns, comme Menat, s'en mordront les doigts relativement vite. D'autres, comme Frachon, resteront...
Ils feront une carrière...
Resteront des militants communistes toute leur vie.
Et là, on s'aperçoit quand même que de quelque chose d'assez flagrant, c'est le manque d'organisation ou l'inorganisation, en tout cas l'inefficacité relative, en tout cas, des mouvements anarchistes, qui va amener à ce qu'on va appeler ensuite la plateforme d'Archinov.
Oui, alors ça, c'est un des grands questionnements du mouvement libertaire, c'est que souvent les libertaires, quand il y a un problème, se disent et comment faire pour résoudre ? C'est une question organisationnelle. Donc, violent débat émaille d'abord les milieux de l'exil russe, puis après les Italiens y participent en disant il faut un nouveau modèle d'organisation. Et donc, il y aura deux organisations, l'une plateformiste donc, qui regroupe les militants dits communistes libertaires au nom de l'efficacité révolutionnaire, et puis les autres qui disent il faut rassembler dans une même organisation l'ensemble des courants. Alors, ils seront plutôt assez... tendance qui est plutôt animée par Sébastien Faure, mais il faut regarder l'ensemble des courants pour pouvoir garder ensemble l'ensemble des courants pour pouvoir protéger la diversité de l'anarchisme et la diversité des modes de propagande de l'anarchisme. Et l'antagonisme qui a existé à partir des années 20 va perdurer pratiquement jusqu'à aujourd'hui, même si les questions ne se posent plus vraiment dans les mêmes termes aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a été très présent et très prégnant dans les débats. Mais c'était aussi un moyen de, dans les deux cas, de pas voir qu'il y avait quelque chose qui s'était passé et que la question organisationnelle n'était peut-être pas la question principale qu'il fallait poser. Après, j'ai pas à dire ce qu'il fallait faire, mais on sent que s'enferrer dans les débats organisationnels, comme on peut le voir dans la presse, permet de pas s'interroger, enfin, ou de s'interroger pas forcément sur la réalité de l'état du mouvement libertaire aussi.
Il y a un autre aspect qu'on n'a pas abordé, même si aujourd'hui il peut paraître un peu plus anecdotique. En tout cas, il a été souvent mis en avant, que ce soit par les ennemis, on peut le dire comme ça, ou les adversaires du courant anarchiste libertaire. Il a été repris dans une sorte de saga romantico-littéraire. Je veux parler des illégalistes, avec quelques exemples comme Bono et Marius Jacob.
Oui, alors oui, ça c'est la queue de comète en fait de la propagande par le fait, c'est-à-dire que en 1913 effectivement il y a au début du siècle avec Mario Jacob qui font des cambriolages de la reprise individuelle pour redistribuer, des cambriolages qui se passent pas forcément très bien. Hein. Il faut s'éloigner en fait de la figure de
d'Arsène Lupin.
Les cambriolages pouvaient être beaucoup plus violents. On retrouve ça d'une autre manière avec la bande à Bono. Ce sont des libertaires qui décident de passer à l'action armée, de braquer des banques pour financer une façon de vivre différemment. Et on va retrouver ces courants de propagandistes par le fait de manière résiduelle, mais qui va toujours exister dans le courant libertaire, puisque après la guerre, elle s'en vantait dans ses mémoires en 1980, mais par exemple Mépicret, donc figure importante du mouvement libertaire dans les années 70, se vantait d'avoir envoyé une bombe contre l'ambassade des États-Unis pour alerter de la situation de Sacco et Vanzetti. Germaine Berton, en 1923, abat Marius Plateau, qui était le chef du service d'ordre de l'action française, alors elle voulait tuer directement le grand chef qui était Maurras, mais elle abat Plateau pour venger la mort de Jean Jaurès. Donc il y a toujours eu, Clémenceau a failli être assassiné également, il y a toujours eu cette tendance enfin, ça n'a jamais totalement disparu. Le rapport à la violence et le rapport à la propagande par le fait existe, a toujours existé et perdure, on pourrait être plus aujourd'hui, mais a perduré pendant très longtemps et a ressurgi sous différentes formes. Après, il y a d'autres formes aussi d'actions violentes qui pouvaient exister. Par exemple, Durruti, Ascasso et Jauvert cambriolaient les banques pour financer les libertaires. Donc, ça permettait aussi de financer le mouvement de. Enfin, l'illégalisme a aussi permis de financer une partie du mouvement libertaire pendant les années de vache maigre, c'est-à-dire l'entre-deux-guerres, sinon la presse libertaire aurait parfois eu du mal à se relever de ces multiples dettes.
Et une presse libertaire, alors on ne l'a pas signalé, mais elle était extrêmement présente, enfin il y avait un nombre important.
La presse libertaire est foisonnante, alors après ça suit l'état du mouvement libertaire, ouais. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement importante dans l'avant-première guerre mondiale. Elle est moins importante dans l'entre-deux-guerres et puis elle est très, très faible après la Deuxième Guerre mondiale pour renaître réellement à partir du moment où le courant libertaire renaît dans la presse 68. Mais effectivement, la presse est un bon indicateur, enfin, le nombre de publications libertaires est un bon indicateur de la présence et du développement des idées libertaires.
Avec une diversité.
Avec une diversité, oui, parce que ça reflète le mouvement libertaire.
C'est
donc,
ça, ouais.
La diversité d'approche, elle est liée à l'ensemble des courants et des idées qui peuvent être proposées, puisque ça va du récit des expériences de vie communautaire, en passant par les récits d'expériences à la ruche, en passant par
la ruche de Sébastien Faure,
ou en passant par plus traditionnel, le libertaire qui donne des informations générales. Enfin, donc l'ancêtre du monde libertaire qui donne des informations plus générales sur l'état du mouvement libertaire, mais chaque groupe local peut également avoir sa feuille ou ses feuilles avec des informations plus locales.
Il y a aussi un autre aspect qu'on a évoqué dans la première partie de l'émission, qui est celui de l'éducation, qui reste quand même présent.
Le modèle éducationniste existe, donc avec Paul Robin qui fonde l'orphelinat de Saint-Puis. Hein, donc il s'agit, alors à chaque fois, il faut faire attention, parce que c'est des micro-expériences qui ont lieu souvent dans des milieux ruraux. Donc reprendre aujourd'hui en classe exactement oui. les expériences de Robin ou de Sébastien Farpoix, ça peut marcher, mais ça peut être un peu hasardeux aussi, puisque les enfants étaient quand même élevés en plein air et faisaient principalement des travaux manuels, complétés par un enseignement intellectuel. Mais donc on avait on a toujours eu cette tradition d'éducation des enfants, avec une volonté de faire des enfants des adultes, enfin des êtres à part entière, qui étaient les égaux des adultes, même si ça restait des enfants. Ça, c'est la première chose, et c'est un courant qui existe encore aujourd'hui, oui. puisqu'il y a eu une nouvelle expérience avec l'école Bonaventure dans les années 90. Oui.
Le lycée autogéré.
Il y a le lycée autogéré, donc, qui est fondé par le frère de...
Enfin, Gabriel
Cohn-Bendit. Mmh. Hein, donc cette volonté de transmettre par l'éducation a toujours existé, et puis on la retrouve dans un autre niveau, hein. C'est dans les bourses du travail où il s'agissait de donner, pour reprendre la formule de Pelloutier, aux ouvriers la science de leur malheur. Mais ça voulait dire que ces ouvriers n'avaient pas forcément appris à lire, donc on leur apprenait à lire, on leur apprenait un certain nombre de rudiments.
Oui, c'est pour ça des universités populaires.
Oui, on leur apprenait des rudiments techniques et pas que techniques, hein. On leur apprenait aussi ils apprenaient même par eux-mêmes des éléments philosophiques, politiques, enfin ce qu'on veut. Voilà. Et donc, cette volonté d'éduquer a toujours été extrêmement présente dans le mouvement libertaire, parce que l'éducation peut servir de base pour la société future. Mmh, mmh. Donc, c'est un élément central dans la pensée libertaire. C'est pas le seul, mais c'est un des éléments centrales, les questions éducatives. Et c'est des débats qui encore animent aujourd'hui ce mouvement, parce que la question éducative demeure un point essentiel des projections dans la société à venir, ou même des réalisations potentielles qui montreraient une projection dans la société future.
Il y a deux événements qui vont marquer quand même l'entre-deux-guerres. Hein. Bon, d'une part, bon, l'émergence du fascisme en Italie, du nazisme en Allemagne, mais aussi en France, le 36, le Front Populaire, et le début de la Révolution espagnole, qui a lieu à peu près au même moment, hein, le 18 juillet 36. Qu'est-ce qui se passe alors pour le mouvement libertaire en France à ce moment-là ?
Alors, le mouvement libertaire, alors, on a quelques livres, enfin... plusieurs libertaires. Le mouvement libertaire n'est pas florissant. Il commence à retrouver des militants à ce moment-là, puisqu'il y a une vague d'adhésion globale à toutes les organisations ouvrières en 1936. Il retrouve quelques vivacités. Il y a des groupes qui existent. Et même pour certains, ils vont participer aux premières grèves qui vont être les étincelles qui vont permettre le mouvement de grève de mai-juin 1936. Donc il y a cette dimension-là qui est minoritaire en France. Hein. Et puis, ce qui se passe outre-Pyrénées, c'est-à-dire qu'au moment du pronunciamento, donc du coup d'État de Franco, là, on n'est pas dans la même configuration, parce que la CNT, donc la Confédération Nationale du Travail, revendique 1 million d'adhérents. Alors, les chiffres... ils revendiquent en tous les cas 1 million d'adhérents, et ils vont tenter d'empêcher ce coup d'État, et c'est le début de la Révolution espagnole. Et donc il y a un courant de solidarité. Donc là je rentre pas dans les détails, oui. parce que c'est un livre la Révolution. Enfin, c'est plusieurs livres en soi sur la Révolution espagnole et sur la CNT espagnole, mais plusieurs militants français vont dès la fin juillet 1936, se précipitent en Espagne pour aller aider leurs camarades espagnols, et vont fonder donc le groupe international de la colonne vont participer à la fondation du groupe international de la colonne d'Urruti, dans lequel seront présents plusieurs dizaines de libertaires, et donc quelques-uns trouveront la mort, avec aussi des anecdotes, la philosophe Simone Veil était myope comme une taupe et qui n'a pas vu une bassine d'eau bouillante qui fait qu'elle s'est brûler le pied, n'allait jamais plus aller combattre sur le front espagnol.
Sébastien Faure
est présent. Il reste à l'arrière.
Hein. Il est âgé.
Oui, il est âgé. Donc non, c'est plutôt un autre militant, alors, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais sous un autre nom, qui s'appelle Charles Cornvint. Oui. Alors à ce moment-là, il signe du pseudonyme de Charles Riddell, qui deviendra Louis Mercier-Vega après la guerre, et qui est l'auteur de l'incroyable anarchisme, qui a été un des premiers à franchir les Pyrénées et à aller combattre directement en Espagne avec quelques autres militants, des destinées parfois assez croquignolesques, puisque l'un d'entre eux, après avoir travaillé, enfin avoir combattu en Espagne en 36, va collaborer pendant la Seconde Guerre mondiale dans les restos communautaires, donc qui était un organisme créé de toutes pièces par Vichy, et puis il piquera la caisse et se retrouvera à Sigmaringen aux côtés des pires collaborateurs. François Carpentier, je crois, avec les pires collaborateurs, et bon, certains lui diront, t'as vraiment rien à faire ici, oui. Il sera quand même condamné à la libération, parce qu'il avait quand même un peu beaucoup participé au régime de Vichy via ses restaurants communautaires. Et ça amène l'autre question importante, c'est quel a été le choix des libertaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, même chose, majoritairement, ils ont été attentistes. Il y a une faible minorité qui va collaborer et une forte minorité qui va participer à la résistance, avec le problème, c'est à partir de 41 surtout, c'est qu'ils se méfient un peu des communistes dans la résistance, c'est que certains l'ont payé tragiquement, notamment dans les maquis où il y avait des Espagnols, certains l'ont payé tragiquement, puisqu'il y a eu plusieurs exécutions sommaires de militants de militants anarchistes par des communistes espagnols. Ouais. Donc il y a cet autre aspect qui est la question de l'aide à l'Espagne et de la perception du fascisme. Donc globalement, les anarchistes ils sont hostiles au fascisme, vont participer à tous les regroupements antifascistes, mais après, quand le fascisme arrivera vraiment en France avec l'invasion allemande, là, quelques-uns feront des choix qui peuvent surprendre aujourd'hui, compte tenu de ce que l'affirmation classique de l'antifascisme qu'on retrouve dans le mouvement libertaire traditionnellement.
Effectivement, c'est une partie de l'histoire du mouvement qui reste encore assez méconnue, enfin en tout cas du grand public, peut-être pas des spécialistes dont tu es, mais qu'il est important quand même de
dévoiler. Il faut tourner le bâton dans l'autre sens aussi. Oui. Hein, c'est que, par exemple, un militant qui était responsable de la page syndicale du Libertaire dans les années 20, qui s'appelait Albert Guigui, sera un des responsables les plus importants de la résistance syndicale.
Dans le Nord, hein, c'est ça.
Oui, dans Libération Nord. Oui. Et son pseudonyme de résistant n'est pas tout à fait un hasard, puisque c'est Varlin en hommage à la Commune. Oui. Et il a eu un rôle assez important dans le mouvement Libération Nord et dans la résistance syndicale. Et alors, ce qui se passe souvent, c'est que les libertaires n'ont pas fait forcément de bruit sur leur participation à la résistance ou à la fabrication de faux-papiers.
Oui, c'était pas le parti des fusillés.
Voilà, ou au système D auquel ils participaient, parce que ce système D, il continue à exister après la guerre, donc il ne faut pas forcément faire de la publicité sur certaines choses.
Tu as consacré aussi un ouvrage à un autre militant important, Julien Le Pen.
Oui, alors Julien Le Pen, lui aussi, a participé à la résistance. Alors, j'ai jamais trouvé de traces matérielles. La seule trace, c'est à la Libération, il retrouve sa place à la CGT. Il aurait collaboré, il n'aurait pas pu retrouver sa place à la CGT. Donc, de fait, et en plus, comme il était proche de Guigui, que je viens d'évoquer, il a été un des acteurs de ce mouvement Libération Nord, mais les fils sont ténus. Oui. En fait, c'est une figure importante du mouvement syndical libertaire entre les deux guerres, puisque Le Pen, contrairement à d'autres, alors participe à la scission de la CGTU, même s'il semblait assez hostile, et contrairement à d'autres qui vont aller fonder la CGTSR avec Pierre Bénard, lui dit non, on est dans l'impasse parce que la CGTSR, il y a très peu de militants, donc il vaut mieux être dans une organisation où il y a beaucoup de militants, où, même si on est minoritaire, parce qu'au moins on fera force, puisque c'est quand même l'objectif du mouvement syndical. Et Julien Le Pen, donc, pendant toute l'entre-deux-guerres, va d'abord tenir une rubrique régulière dans le Libertaire, va animer le courant libertaire dans la CGT et va aussi écrire régulièrement des articles dans Le Peuple, qui était le quotidien de la CGT, où plusieurs libertaires avaient leur voix. Leur chronique était assez régulière dans ce quotidien.
On a fait un panorama, je pense, assez large, hein, de ce mouvement de ce mouvement anarchiste et libertaire jusqu'en 45. La suite, c'est une autre histoire, mais c'est présent dans ton livre, dont je rappelle le titre, hein, Le peuple du drapeau noir, une histoire des anarchistes, donc par Sylvain Bouloux. C'est paru aux éditions Atlante. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ton livre, qui se lit vraiment très facilement, d'une seule traite. C'est une très bonne synthèse de cette histoire. Il y a beaucoup de notes qui renvoient à d'autres références, dont certains de tes ouvrages, donc on peut aller creuser certains points qui pourraient nous intéresser à d'autres égards. En tout cas, je recommande vivement cette lecture à ceux qui s'intéressent au mouvement et à l'anarchie comme mode d'entrée. Hein, c'est un bon passeport pour y aller, non ?
L'idée était, en fait, j'ai essayé de m'adresser à un étudiant fictif qui connaîtrait rien à l'anarchisme et d'essayer de faire une espèce, alors pas un cours, parce que c'est pas ce que je voulais faire non plus.
Oui, c'est pas du tout.
Ça ne veut pas être grand 1, grand 2, mais l'idée était d'essayer de faire comprendre ce que pouvait être l'anarchisme et surtout, moi, ce qui m'importait, qui étaient les anarchistes. Hein, c'est pour ça que c'est le peuple du drapeau noir. Mais je ne prétends pas non plus faire une histoire unique. C'est-à-dire que c'est ma vision et ma façon de voir l'histoire de l'anarchisme. J'espère qu'il y aura d'autres histoires d'anarchisme qu'ils présenteront de manière complètement différente, puisque justement, tout l'impact. C'est là aussi, ça a été une auberge espagnole, donc il faut que les histoires de l'anarchisme soient le reflet aussi de cette auberge espagnole et de la diversité possible de l'interprétation de l'anarchisme.
En tout cas, ce que j'ai trouvé moi particulièrement pertinent dans ce livre, c'est que les moments qu'on a essayé de restituer ici, les moments les plus compliqués, comme le moment des scissions ou de la guerre de 14, ou on en a parlé un petit peu de la guerre de 40-45, les moments de tension, d'hésitation, de doute et de faiblesse du mouvement anarchiste, tu les exposes clairement et le plus honnêtement possible à partir des faits historiques. Et ça, c'est important aussi de savoir ça. Ce n'est pas uniquement une apologie du mouvement anarchiste, c'est aussi une histoire qui se veut la plus proche
Pour le coup, même s'il y a une introduction un peu personnelle sur mon rapport à l'anarchisme, pour le coup, j'ai essayé de présenter, pour que ce soit justement pas un texte militant, mais vraiment que n'importe qui ne soit pas militant mais que ça intéresse puisse se dire je lis en confiance. Et il s'agit vraiment d'établir des faits et de retracer une histoire. Il s'agit pas de faire c'était pas du tout pour faire un tract, c'est pas mon métier.
Et il y en a d'autres qui l'ont fait très bien.
Il y en a d'autres qui le font très très bien, mais là c'était vraiment essayer de mettre en perspective l'anarchisme et puis comme je suis historien, de raconter des histoires d'anarchistes.
Merci beaucoup Sylvain. Merci. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. Lulu, on peut lancer le générique.
Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste
et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.